La mission prophétique de Don Helder Camara, 1909-1999, archevêque d'Olinda et Recife de 1964 à 1985 au Brésil. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie de l'intervention de José de Brooker, journaliste et membre de l'association Don Helder Mémoire et Actualité, une intervention enregistrée à l'abbaye de Belloc le 12 décembre 2009. Voici donc la première partie de l'intervention de José de Brooker, la mission prophétique de Don Helder Camara.
Alors, comme introduction, je vous prie d'accepter que notre rencontre n'est pas l'occasion d'une conférence de caractère académique, mais plutôt d'une causerie-témoignage à prolonger à la faveur des questions que j'aurais pu laisser en suspens ou que j'aurais pu susciter dans vos esprits dans la première partie de cette rencontre. Peut-être le nom de Don Helder Camara ne dit pas grand-chose de précis, en tout cas, à tout le monde, de ceux qui sont là ou de ceux qui nous écoutent. Donc très succinctement, je voudrais dire ou rappeler que Don Helder Camara est un Brésilien du nord-est du Brésil, la région la plus pauvre de ce pays continent, qu'il est né en 1909, d'où le centenaire de sa naissance qui a été célébré par diverses manifestations cette année 2009, beaucoup au Brésil, mais également pas mal en France, sous l'égide notamment de la Conférence des évêques de France, mais aussi de l'UNESCO, et de quantité de communautés comme celle qui est réunie ce soir, cet après-midi, pardon. Il a entré très rapidement, très jeune, au petit séminaire, puis au grand séminaire. Il a été ordonné prêtre avec dispense d'âge de Pie XI en 1931, donc à l'âge de 22 ans et demi. Il a été fait évêque auxiliaire, puis archevêque auxiliaire de Rio de Janeiro, alors capitale fédérale du Brésil, à l'âge de 52 ans, puis archevêque de Olinda et Recife, donc sa région natale du nord-est à la pointe. Enfin, tout le monde s'est situé Recife depuis l'accident de l'avion. Bien. Vous voyez où c'est. Oh, il a été donc nommé là en 1964. Il a remis sa démission à ses 75 ans en 1984. Démission acceptée. Et donc, il a pris sa retraite à Recife l'année suivante, 85. Et il est décédé à l'âge de 90 ans, en 1999, il y a 10 ans, maintenant. Donc, double anniversaire cette année, deux anniversaires qui se sont conjugués pour ces célébrations. La vie de Don Helder n'a pas été un long fleuve tranquille. On n'en connaît que une fraction, on en connaît, nous, sur cette rive de l'Atlantique. Quand il a commencé à être intercontinentalement célèbre, c'est-à-dire pendant et surtout après le Concile, c'est-à-dire deuxième partie des années 60. Il avait vécu avant, vous pouvez vous en douter. Et on peut diviser ses 90 ans d'existence, disons, en plusieurs grandes périodes. Je passe sur la jeunesse, mais ses premières années sacerdotales ont été marquées par une intense activité politique dans la ligne Disons, j'étais dans les années 31-36, dans la ligne du fascisme à la manière de Salazar. Vous savez que le Brésil et le Portugal ont eu une longue existence commune. Il s'agissait de bâtir au Brésil une chrétienté, j'allais dire une ecclésiocratie. La période suivante, 1936-1942-45, il s'est retiré de son diocèse du Nord-Est et il a été reçu dans l'archidiocèse de Rio de Janeiro et il a vécu là une intense période de maturation culturelle et spirituelle. De début des années 40, mettons 1945, jusqu'en 1964, à Rio de Janeiro, avec le successeur du cardinal qu'il avait accueilli en 1936, il a été chargé des plus hautes missions ecclésiales de la capitale fédérale, ce qui l'a mis à profit, si je peux dire, notamment pour créer la conférence épiscopale brésilienne, qu'on peut qualifier de la première du genre, avant le Concile Vatican II. Et dans la foulée, avec un collègue du Chili, et tout cela, évidemment, avec plus que les bénédictions de Rome, la conférence des évêques d'Amérique latine, la toute première et pratiquement unique du genre conférence continentale. 1952, la première, 1955, la deuxième. Dans le même temps, il était le représentant accrédité par l'épiscopat brésilien, dont il était le secrétaire général, auprès du nonce apostolique, dont il était le conseiller privilégié, et ils avaient, disons, un point fixe tous les samedis matins pendant plus de 10 ans. Et c'est là que se concertaient tous les développements de l'Église du Brésil. Dans le même temps encore, il était l'interlocuteur privilégié entre l'épiscopat brésilien, l'Église du Brésil, et le gouvernement fédéral du Brésil. C'est une période où il était tellement bien articulé avec les autorités civiles qu'il lui a été proposé de faire un ticket, comme on dirait aux États-Unis, pour les élections présidentielles avec le rang de possible vice-président de la République fédérale du Brésil, qu'il aurait pu accepter ce qui lui a été proposé d'être ministre de l'Éducation nationale fédérale. S'il avait accepté, il aurait pu être ministre fédéral, maire de la capitale encore fédérale, Rio de Janeiro. Bon, je vais vous dire qu'il était représentant de l'Église dans l'establishment brésilien. La quatrième, je ne sais plus combien je suis, période, ça a été ensuite de 1964, son retrait en 1985, à Recife, comme archevêque résidentiel. Il a été à la fois le défenseur des droits de l'homme sous le régime de dictature militaire qui s'est établi au Brésil l'année même, un mois avant que Dom Helder soit nommé à Recife. Son épiscopat à Recife a correspondu à la période de dictature militaire. Et il a été de fait la voix des sans-voix, allant jusqu'à à Paris, dénoncer publiquement la torture. Dans le même temps, se voyant interdit de parole au Brésil, marginalisé, diffamé, il a accepté nombre d'invitations à être le porte-parole des 100 voix du monde, et non pas seulement du Brésil, dans la plupart des pays libres de l'époque. C'était l'époque de la guerre froide. Le mur de Berlin n'était pas tombé. Il se serait refusé d'aller dans des pays. Il n'acceptait de parler que dans un pays sous régime dictatorial, c'était le Brésil. Les autres, il refusait. C'est à cette époque-là qu'il a reçu une trentaine de doctorats honoris causa des plus diverses universités, y compris en France, à la Sorbonne, invité au Collège de France aussi, et bien ailleurs, qu'il a reçu une soixantaine de prix internationaux, y compris bouddhistes, y compris des Indiens d'Amérique, il a fumé le calumet de la paix. C'est de cette époque-là qu'il a passé un contrat, en quelque sorte, d'articulation avec le successeur de Martin Luther King assassiné pour prolonger l'action internationale pour la non-violence active. Bon, et c'est dans cette période également, la plus féconde de sa vie et la plus connue, qu'il a commencé à mettre dans son diocèse en application le concile qu'il a vécu intégralement du début à la fin. Voilà pour dessiner un peu un personnage dont vous auriez retenu qu'il avait connu un certain nombre de conversions. Son itinéraire est marqué par des conversions assumées par lui comme telles, reconnues, au point que son autobiographie, que j'ai eu le privilège de recueillir de sa bouche et qui a été éditée en France, a eu pour titre, avec l'agrément de Dom Helder, « Les conversions d'un évêque ». Ce n'est pas la confession d'un cardinal, hein. Les conversions d'un évêque. Vous aurez retenu également qu'il a eu une célébrité que même l'abbé Pierre mondial, même l'abbé Pierre ou Mère Teresa pouvait lui disputer. Au Brésil, il est aujourd'hui reconnu comme le personnage le plus important du pays de tout le XXe siècle. En Amérique latine, il est reconnu par les historiens de l'Église, notamment, comme une des figures emblématiques du réveil ou de l'éveil, pour ne pas dire de la naissance prophétique d'une Église latino-américaine, réellement Église latino-américaine. Jusqu'à présent, c'était des succursales, soit de l'Église d'Espagne pour la partie hispanique, soit de l'Église portugaise pour la partie brésilienne, au point qu'il fait partie, d'après ses historiens, de ce que ces derniers appellent les pères de l'Église d'Amérique latine. Comme il y a des pères de l'Église latine, comme il y a des pères de l'Église grecque, d'Orient, mais à 15 siècles d'écart. Bon, c'est dire l'importance de ce personnage. Alors, si je suis là à vous en parler, c'est parce que, disons que j'ai eu le privilège, personnellement, d'être appelé à le connaître d'assez près, pour une part à la faveur d'ouvrages qui m'ont été demandés, le premier en 1968, le second en 1977, par des éditeurs français qui ne voulaient pas ne pas avoir à leur catalogue une biographie, un portrait de ce personnage que toutes les radios, toutes les télévisions se disputaient partout où il passait. Ça m'a donné l'occasion de faire plusieurs séjours prolongés chez lui, concurremment ou en conséquence, en quelque sorte, de ces travaux en commun. J'ai eu le privilège, moi et ma famille, d'accueillir Don Helder chez nous, dans la mesure où il m'a demandé, je n'aurais pas voulu refuser, même si quelquefois ça aurait été peut-être mieux pour moi. Il me demandait d'être son antenne, en quelque sorte son correspondant pour la France. Il en avait un autre en Italie, une autre à Bruxelles, un autre en Allemagne, un autre aux États-Unis, au Canada, hein, tous les pays avec lesquels il était en rapport constant. Et j'étais chargé de l'aider à choisir les invitations qu'il était convenable d'accepter pour des conférences, pour des rencontres, pour des émissions, pour toutes sortes de choses, qu'il amenait à sortir de son diocèse pour des périodes plus ou moins longues, mais qui toutes devaient tenir dans le cadre des vacances canoniquement reconnues aux évêques. On ne pouvait pas sortir de là. Et toujours en accord avec le souverain pontife et l'évêque du lieu où il allait éventuellement se parachuter. C'était des conditions strictes. Bref, il recevait énormément d'invitations. Comment peuvent-elles s'articuler? Y a-t-il des priorités? Y en a-t-il de suspectes? Bon, il tenait beaucoup qu'on respecte et sa liberté et l'authenticité de ses propos. Ne soit pas manipulé. Donc j'avais cette charge-là, et puis quand il avait arrêté un programme, ben, il fallait bâtir ce programme, l'accueillir, l'accompagner, piloter. Parmi les innombrables interviews qui étaient sollicitées de lui, pas mécontenter les confrères journalistes, etc. Même s'il répétait toujours la même chose à tout le monde, chacun voulait l'avoir, hein, à son micro ou sur son écran. Et comme tous ceux qui l'ont accueilli, tous ceux qui ont vécu un peu avec lui, bon, ont connu les surprises que j'ai connues, que ma famille a connues. Il appelait ma femme ma sœur, comme il appelait son frère, bon. Et mes enfants ses neveux ou ses nièces, on était en famille. Des surprises. La plus commune et communément commentée, c'est qu'on avait beau lui préparer une chambre, lui préparer un lit, eh bien on s'apercevait le matin qu'il n'avait pas défait le lit et qu'il ne s'était pas couché. Qu'en revanche, il arrivait avec dans la main et sortait de sa chambre, quand il entendait un peu de bruit, il sortait de sa chambre et il avait à la main une poignée de lettres qu'il fallait poster, de listes de courses qu'il demandait à ma femme de bien vouloir faire pour qu'il puisse rapporter au Brésil aux gens qu'il avait promis de leur rapporter des médicaments ou des parfums, toutes sortes de choses. Bon. Ou bien des conférences, des textes qu'il avait préparés et qu'il me demandait de lire pour améliorer le français, ça ne servait pas à grand-chose, ou pour dire est-ce que c'est bien ça ce qui va être attendu et entendu. Bon, je reviendrai sur ces nuits pas ordinaires. Bon, on était, on ne pouvait pas manquer d'être surpris comment il prenait les repas, mais pas pour manger. Il accompagnait le repas, tranquillement, en grignotant et en félicitant la maîtresse de maison, c'est parfait, etc., c'est délicieux, etc. Il aimait bien le vin, mais le vin ne l'aimait pas, donc on ne servait pas de vin, etc. Bon, etc. Quand on l'accompagnait, par exemple, parce qu'il y avait une conférence de presse, je ne sais pas quoi, dans un restaurant, bon, le déjeuner, c'était pareil, grignoter, picorer dans son assiette. Mais il accompagnait le repas. Il tenait beaucoup à accompagner le repas, il était bien présent, il n'avait pas tout l'air de s'ennuyer ni de perdre son temps. Mais il ne quittait jamais la place sans à disparaître. Là, il allait du côté des cuisines, du service, etc. Surtout ne pas manquer de remercier la maîtresse de maison, de remercier le personnel de service à la cuisine, etc. L'attention. C'était impossible, on s'énervait, parmi les surprises, vraiment on s'énervait parce qu'il y avait un avion à prendre, il fallait aller à Orly, ou à Roissy, à l'époque c'était plutôt Orly, et lui, on se connaissait, nous, les embouteillages, etc. Bon, pas moyen de le faire rentrer dans la voiture avant qu'il n'ait fait rentrer les autres personnes qui devaient, parce qu'il tenait à tenir la porte, hein, bon, à faire des avances, des politesses, des gentillesses, etc. C'était épouvantable à vivre quand on sait qu'on risque d'être dans un embouteillage, de rater l'avion. Ce qui peut vouloir dire que il rentrerait là, si Dieu le veut, on accepte tout, si Dieu le veut. Bon. Mais on savait que ça veut dire qu'il fallait le ramener, repasser 48 heures ou 24 heures avec lui. C'est-à-dire, autre surprise, enfin, autre constatation, c'est que il était d'une disponibilité, je dis ça, même à Recife. À Paris, ben évidemment, il n'avait pas de réunion, il n'avait pas de rencontre, il n'avait pas allé dans les paroisses, etc. Bon, il n'avait pas allé à l'archevêché. Bon. Mais à Recife, oui. Il n'empêche qu'on avait toujours le sentiment qu'il était tout à vous, tout disponible, qu'il n'avait rien à faire. Bon, on comprenait mieux quand on savait ce qu'il faisait la nuit. Mais ceci dit, c'est quand même surprenant. Et à Paris, c'était éprouvant, dans la mesure où moi, j'avais quelque chose à faire. Je n'étais pas en vacances, je n'étais pas en congé. Hein. Et lui avait tout son temps. Moi, je savais qu'il fallait que ça se bouscule un peu. Parce que, bon, enfin, il y avait cette disponibilité aux autres, quels qu'ils soient. Hein. Chez lui, vous savez qu'il habitait dans l'ex-sacristie d'une église en centre-ville. Hein. Vraiment, c'était le contraire d'un palais. Hein. Mais il n'avait pas de service. Bon, c'est lui toujours qui ouvrait la porte et qui accueillait tout le monde. Et c'est jamais lui qui mettait à la porte le premier. Hein. Je sais, quand je prenais enregistrer des entretiens avec lui, combien de fois on était interrompu. Parce que je n'étais pas tout seul à accueillir. Il devait accueillir aussi. Enfin, le personnage avait quelque chose de, disons, d'assez fascinant par tous ces contraste entre, disons, l'importance qui lui était accordée, l'importance du rôle qu'il jouait, l'importance de ses audiences, 10 000 personnes ou 15 000 personnes au Palais des Sports à Paris. Bon, c'est comme ça, non, comme tête d'affiche. Et la modestie, la discrétion, la délicatesse, la disponibilité, la sérénité, tranquillité de son comportement dans la vie de tous les jours. Avec quelque chose de très surprenant, très très surprenant, assez fascinant. Voilà, alors, pour en finir un peu de mes rapports avec lui, pour un journaliste, c'est quelque chose d'important, on ne passe pas à côté de devenir quelque peu familier avec un personnage aussi recherché, aussi disputé. Et qu'en même temps, c'était un personnage très discuté, et pas seulement qu'on se le disputait, très admiré par les uns, très suspecté, voire dénoncé par les autres, on reste, et quand on est journaliste, on reste en état d'enquête perpétuelle, continue, sur le personnage dont on est devenu familier. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui avait tout pour être, j'ai dit, vice-président de la République s'il l'avait voulu, qui a préféré être resté évêque dans son diocèse, qui aurait pu être cardinal et qui a préféré prendre les risques d'être prophète, qui se disait timide et qui était, je veux dire, à l'aise avec les plus grands, que ce soit le président du Brésil, que ce soit le pape Jean XXIII ou Montini, Paul VI, etc., comme avec les plus petits, comme avec ces pauvres du Trastevere et à qui il allait parler et à qui il demandait de lui parler à lui de Dieu, au nom de Dieu, bon, pendant le Concile. Qui était cet homme, à la fois enfant, une âme d'enfant, un regard d'enfant, qui, pendant le Concile, allait voir Mary Poppins, l'après-midi, pas pendant les congrégations générales du matin, qui, pendant le même Concile, aussi tenait beaucoup à aller voir un spectacle de cirque, et qui écrivait après ça, les lettres qu'on peut lire maintenant, ah, j'aimerais bien recommander au pape qu'il recommande à tous les évêques d'aller passer une après-midi voir Mary Poppins ou d'aller au cirque. Retrouver leur âme d'enfant. Il était poète. Il a écrit l'oratorio, le livret d'un oratorio mis en musique par un compositeur suisse qui s'appelle. Et il a sur scène plus d'une trentaine de fois dans une trentaine de villes, y compris en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne et au Brésil naturellement, il était sur scène à faire le récitant. Bon, et c'est un livret, un texte qui est pratiquement son testament. Il a intéressé le Béjart, chorégraphe, au point que Béjart a écrit et interprété, monté un ballet, la messe sur le XXe siècle, dont la deuxième partie est selon l'argument de Don Helder. Et son regret, un de ses regrets, est de ne pas avoir pu créer un spectacle pour le cirque. Alors, il était ça, et en même temps, un organisateur pour créer une conférence des évêques et en être le secrétaire général pendant 12 ans. Il faut être autrement autre chose qu'un poète ou qu'un enfant. Pour créer l'opération de relogement des habitants des favelles de Rio, comme il l'a fait en 1955, il faut être un manager, et pas seulement un troubadour. Pour créer la banque de la Providence et la foire de la Providence, qui existe toujours à Rio, et qui a été créée en 1960, hein, ça fait quand même un bail, hein, et qui est une fête formidable de chaque année, il faut être autre chose qu'un enfant et qu'un poète. Cet homme doux et pacifique, apôtre de la non-violence, a été et était encore capable de polémiques sévères. Il a été sur la fin de sa vie, dans la période de Récif, traité de pro-communiste, voire de communiste, mais lui-même, dans les années 30, il avait publiquement traité des adversaires du mouvement intégraliste dont il était un grand... des adversaires de pro-communistes. Il a continué d'écrire, mais sans jamais les publier ni les prononcer, disons, des diatribes de dénonciation, d'une ironie sévère, hein, et prophétique, à mon avis, à l'égard d'un certain nombre de courants de pensée, etc. Donc il était capable d'une grande violence, et il est devenu un des porte-voix des mouvements non-violents internationaux. Il était diplomate, il était... Enfin bref, la diversité de ses facettes m'a toujours interrogé. Qui est cet homme ? Quelle est l'âme de cet homme ? Et je dirais que même l'ayant pas mal rencontré, il y en a d'autres qui l'ont rencontré beaucoup plus que moi, hein, c'est clair, mais l'ayant, disons plutôt, pas mal rencontré, un peu vécu avec lui, je dirais que c'est après sa mort, il y a 10 ans, que j'ai commencé à vraiment approcher ce que je pense être la source de la lumière qu'il irradiait et des énergies qu'il mettait en œuvre et des espérances qu'il faisait repartir en avant à chaque humiliation, à chaque échec, à chaque épreuve. Bon. Grâce, disons, je reviendrai sans doute grâce à ses écrits. Alors, c'est parce que j'ai bien connu, parce que pour ce que je commence à mieux comprendre de lui, parce que je sais avoir personnellement reçu de lui, enfin il n'a jamais demandé à être imité, hein, donc je ne cherche pas à vous faire croire que je marche dans les pas de Noëlder. Mais bon, je dis ce qu'il a été, ce qu'on peut rencontrer encore de lui aujourd'hui, mérite d'être partagé, mérite de ne pas tomber dans l'oubli. Il y a eu ces 2 dernières années en France, 5 livres qui ont été édités, ou pour 2 d'entre eux, réédités après avoir disparu des librairies pendant plus de 15 ans, par épuisement. Noëlder a cessé d'intéresser à partir du moment où, dans la fin des années 80, où il a disparu de la scène brésilienne et internationale, et l'Amérique latine a moins intéressé, etc. Donc, il n'y avait plus de marché. Parmi ces livres qui ont été nouveaux ou réédités, il y en a un qui porte ce beau titre, à mon avis. « N'oublions pas la prophétie ». Ah ben là voilà, d'un bénédictin du nord-est brésilien, dont Marcelo Barros, et qui est son témoignage, l'empreinte. Et il a travaillé pendant 8 ans avec Don Helder, Don Helder lui avait confié un peu, disons, les activités d'intérêt œcuménique. C'est tout, mais il ne partageait pas forcément au départ les idées, les tropismes, etc. de Don Helder, mais il a été marqué par Don Helder, par sa vie, par son message, par ses souffrances aussi. Il révèle bien les souffrances de Don Helder, de l'Église, dans l'Église, etc. Donc n'oublions pas la prophétie, n'oublions pas les prophètes. Ne laissons pas tomber, la phrase exacte d'ailleurs dans le livre, c'est « Ne laissons pas tomber la prophétie ». Alors, pour moi, et pas seulement pour moi, disons, le qualificatif qui est le plus fréquemment, qui cette année du centenaire de Don Helder, a été le plus fréquemment donné à la mémoire de Don Helder, à la vie de Don Helder, au message de Don Helder, c'est le mot « prophète et prophétique ». Et l'intérêt des prophètes, c'est pas forcément d'être entendu que de leur temps. C'est d'avoir un témoignage et un message à vocation, disons, universelle et intemporelle. Ça me paraît être le cas du message, du témoignage, des paroles, des écrits de Don Helder Camara.
La mission prophétique de Don Helder Camara, 1909-1999, archevêque d'Olinda et Recife au Brésil de 1964 à 1985. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention de José de Brooker, journaliste et membre de l'association Don Helder Mémoire et Actualité, intervention enregistrée le 12 décembre 2009 à l'abbaye de Belloc. La seconde et dernière partie de l'intervention de José de Brooker sera diffusée sur cette antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.